car vous entremêlez dans la langue française, de l'allemand, de l'anglais et du bassin. Or, c'est précisément cette polyphonie qui m'a le plus amusée.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Aujourd'hui, l'on se branche en Wi-Fi sur la mémoire des pères et celle de leurs grands-pères et celle des enfants sans qui elles ne sont rien. Celle du Cameroun aussi, celle du fait colonial tout entier, celle de l'homophobie. Dans le dernier roman de Max Lobé, les voix se succèdent et se tressent pour raviver les temps d'avant, raviver aussi des liens abîmés par la violence. La danse y est un espace de force, le mouvement, un amour que se partagent le narrateur et les figures qui l'ont précédé. Mais la danse des pères, c'est le titre du livre, est aussi la danse des langues qui, en se recomposant, offre au présent une nouvelle possibilité de bouger. Max Lobé est notre invité. Ensuite, nous avons rendez-vous avec Sébastien Baer, correspondant de la rédac internationale de Radio France à Berlin, ville qui n'en finit pas d'inspirer les auteurs de polars historiques ou contemporains. Et enfin, on joue au grand jeu des pages musicales. À trouver de la musique dans les livres, il y en a plein dans celui d'aujourd'hui. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Max Lobé.
Bonjour Marie.
Soyez le bienvenu ici dans le Book Club. Votre livre La danse des pères a paru aux éditions suisses Zoé, qu'on célèbre souvent pour leur très beau travail. Soyez le bienvenu, on est ravis de vous recevoir.
Pareil, bon, merci pour l'invitation.
Ici, on fait connaissance avec nos invités en faisant leur portrait de lectrice et de lecteur. Il se trouve que la place des livres, celle des bibliothèques, est importante pour le narrateur de votre livre La danse des pères. Il y décrit notamment une Miss Sparks, c'est à la fin du livre, qui lui dit « You just read » et qui lui confie comme ça la mission de lire Baldwin, de lire Fanon, de lire Angela Davis. Et un petit peu auparavant, ce narrateur nous aura précisé une forme de géographie des bibliothèques avec la bibliothèque du père, la bibliothèque de la mère, un journal, bref. Ça, c'est pour votre narrateur. Pour ce qui est de vous, comment s'est passé le début ou les débuts de votre vie de lecteur, Max Lobé ?
Ça, c'est pour le narrateur qui se rapproche... étrangement, mais c'est voulu de moi. Donc, mes débuts avec la lecture, je pense qu'il faut diviser deux choses pour pouvoir répondre à cette question, non ? Il y a le fait de déchiffrer les syllabes, et puis il y a le fait de lire, et donc d'entrer en communion avec quelqu'un qui... nous a donné une sorte d'héritage qu'on doit fructifier par la pensée. Donc le déchiffrage, je pense, j'ai été un enfant assez précoce, à 3 ans, je pouvais déchiffrer, même déjà avec les PF et les Y, je pouvais déchiffrer, je revois la main de ma mère, la mienne dans la sienne, et qui me dit au commencement. Voilà, et vous avez compris, il s'agit de la Bible. Et le premier roman, le premier livre, hein, ou le premier recueil de livres que j'ai lu vraiment, c'est le Nouveau Testament, Gédéon Bleu. J'avais 3-4 ans. J'arrive à déchiffrer, voilà, j'arrive à déchiffrer. À l'école primaire, j'ai dû sauter des classes. Mais le moment de la lecture arrive plus tard. La lecture dans le sens de décrypter, de comprendre ce qui est en train de se passer dans ce que nous sommes en train de lire.
Et là, vous diriez que ça arrive à quel moment ?
Ça arrive avec la rencontre avec des écrivains suisses, notamment Ramu, parce que quand on prend les classiques hein, de Ramu, Aline, Jean-Luc le Persécuté et les autres, surtout Aline, on peut se dire que mais alors ça a été écrit par un Africain, ce roman en fait on nous dit non, c'est un Suisse bien vaudois du pays de Vaud, et c'est là où on se dit l'histoire est simple, une jeune femme qui se fait elle se fait engrosser par un jeune homme qui l'a fait balader plus tard c'est une histoire universelle. C'est là où je commence à comprendre, mais ça ressemble à ce que mes mères me disaient. Ça ressemble à ce que j'ai pu lire dans certains livres de contes, parce que ma mère, au-delà du Gédéon bleu, elle m'offrait des livres de contes grand format, Belle au bois dormant, Les trois petits cochons et tout ça. Et le déchiffrage, la compréhension se fait davantage avec le journal, l'hebdomadaire, le Popoli. Alors, dans les années 90, quand j'étais tout enfant avec mon père, il rentrait les vendredis, il était tout joyeux comme ça, parce qu'il avait son exemplaire du journal Le Popoli. C'est un journal satirique, hein, politique. On pourrait dire quoi, je sais pas moi, l'équivalent en France, peut-être Le Canard Enchaîné ou les autres. Puisque c'est des caricatures avec des bulbes de parole, j'arrivais à déchiffrer dans un français camerounais comment ces journalistes se moquaient, mais se moquaient avec un trait de dessin.
Du personnel politique en place.
Pas seulement du personnel politique en place, mais du politicien camerounais qui a sans doute donné son nom à ce journal. Popoli vient de Popol, Popol vient Popol Bia. De Paul Biya. Donc voilà mon enfance en lecture. Et après, ça grandit. Je commence par devenir programmateur au Salon du Livre de Genève. Je suis programmateur, je m'occupe des littératures suisses dans toutes leurs langues. Ça veut dire qu'il faut, bien sûr, le français, pratiquer l'allemand, l'italien, le roman, c'est autre chose, aussi l'anglais pour pouvoir inviter des auteurs internationaux. Je l'ai fait pendant 10 ans. Hein.
Donc là, vous avez eu aussi une activité de lecteur de publications contemporaines.
Mais compulsif, compulsif, parce que contemporaine, mais alors, tous les jours, j'en reçois des tonnes de livres et je prends la lecture comme l'écriture pour un exercice très sérieux. Très sérieux.
Et sérieux pourquoi, Max Lobé?
Parce que, commençons par l'écriture. L'écriture, c'est pas un jeu de lumière. Souvent, on se projette dans un, je vais utiliser le terme métier, parce qu'on a vu une personne à la télévision, parce que, et voilà. Et puis, en fait, en avançant vers cette lumière qu'on s'est faite dans notre tête, on se rend compte que, oui, il y en a qui sont flamboyants, qui...
Vous parlez des figures d'auteurs et d'autrices?
Bien sûr, bien sûr, qui sont tout à fait de l'ordre d'un buisson ardent. Et puis, très souvent, malheureusement, alors maintenant j'ai un peu roulé ma bosse, j'ai organisé plein de festivals, participé à des jurys de prix, et j'en passe. Alors on se rend compte que cette lumière qu'on voyait chatoyante, flamboyante, de loin, en fait, n'était que du plastique. C'était d'une fabrication chinoise de mauvais protocoles et que peut-être de lumière, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une sorte de puanteur. Et donc là, on prend la distance. On reviendra peut-être dessus. On prend la distance pour comprendre. Mais qu'est-ce qui m'intéressait chez personne-là?
Mais parce que ça s'est passé comme ça, pour vous, le rapport à la littérature et l'écriture, Max Lobé, vous avez été attiré par la lumière que produisaient pour vous des figures d'auteurs et d'autrices?
Mais c'est ce qu'on a quand on regarde la télévision. Vous savez, par exemple...
Vous auriez pu avoir un désir d'écriture complètement dégagé, même de la conscience de ce que c'est qu'un auteur ou d'une autrice, non?
Ah, vous avez complètement raison. Mais je parle de manière générale, parce que... Personnellement, rien ne me menait à la littérature. Tout me menait à devenir président de la République.
Bah, c'est pas encore perdu. Je sais pas, enfin, c'est pas sûr de, que je vous souhaite ça, mais.
Non, mais c'est même pas une volonté. Je veux dire tout simplement, prenons les moyens d'expression d'art dans leur ensemble. C'est souvent par un média, par un médium qui est de l'ordre de la radio, la télévision, un spectacle, qu'on est marqué par ça et par exemple, quand on écrit son premier roman, on s'est dit, bah, je serai multimillionnaire, je vais passer à la télévision.
on peut aussi s'imaginer d'autres choses, mais ouais.
Mais c'est la même chose dans tous les métiers. Mm. Sauf que là, l'écriture, c'est là où quand je parle d'écriture ici, voyez en même temps la lecture. Mm-hmm. Il faut mettre ses tripes sur la table. L'écriture, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu de lumière, c'est pas un tapis rouge. Hein. L'écriture, c'est la houe, ça laboure. Les chines pliées, des nuits blanches, à force, elles sont devenues la norme. Ingratitude financière certaine.
Mais on est loin du multimillionnaire.
Qu'on avait pensé lorsqu'on avait 20 ans. Non. Mais la question qui reste au fond, sur le 7e roman, mais pourquoi?
Pourquoi vous continuez à écrire?
Pourquoi je continue à lire et à écrire? Et c'est là où je. Peut-être. On entre dans notre conversation. Je parle de la flamme. La flamme qu'on pourrait considérer flamme-âme, la substance.
Ou même l'oiseau de feu. Vous racontez aussi, Max Lobé, cette présence qui est si importante et qui prend comme ça des puissances allégoriques dans votre livre, ou dans votre, presque dans votre imaginaire, on pourrait dire, d'auteur. Cet oiseau de feu qui tient son émancipation, sa sortie de la cage, du verbe, de la littérature.
Que fait un enfant de 3 ans à qui la grande tante, la grande cousine a lancé PD et que la mère s'énerve dans tous ses états? L'enfant de 3 ans ne comprend pas ce que c'est.
Au Cameroun, dans les années 80. Partout, vous diriez.
Partout. En France.
Partout. Que fait un enfant de 3 ans, en effet, à qui un adulte lance PD?
Bon, alors, il ne comprend pas. Il ne sait pas jouer au foot. On parle d'un petit garçon. Qu'est-ce qu'il fait dans ces moments de rejet et de solitude? La solitude, déjà alors, à cet âge-là, l'enfant la connaît. C'est sa meilleure amie. Eh bien, cet enfant, il rêve de danser avec des papillons. Il parle avec des mangues qui sont sur le point de tomber. Il parle avec le ciel et les nuages qui bougent, qui forment des images. Il voit des choses. Moi, je me souviens, j'étais enfant, me traiter non seulement de 9 mois pour rien, PD, féminin, on dit, mais en plus, il est fou. Parce que je pouvais tenir des meetings en qualité de pasteur à 6 heures du matin à l'âge de 6-7 ans et je réveillais tout le quartier. Et je parlais à des gens que je ne voyais pas.
Donc c'est cette flamme dont vous parlez, Max Lobé, qui est la flamme de la nécessité, de la survie, de la vie.
C'est la vie même. Et quoi, elle, là? Parce que... Je finirai peut-être avec ça, si vous me permettez de faire la démonstration de ce que j'essaye, de ce que je vois en brut. Je vais essayer de polir tout ça. On est tous des sans-domicilphistes. On est tous des SDF. On est tous des SDF dans ce sens que on a un toit, oui. Le SDF, c'est pas seulement celui qui dort dans la rue et qui n'a pas de toit. Mais on est des SDF en ceci qu'on change nos vêtements, on vieillit, la chevelure blanchit, la ride creuse bellement ou de manière très désagréable. On bouge dans l'espace, on déménage, on aménage et tout ça. Eh bien, à la fin de ça, c'est quoi? Le vrai et le seul domicile fixe, c'est au-dedans de nous. Donc, ma première maison... Ah non, c'est pas la bonne, le bon terme, maison. Mon premier temple, c'est au-dedans. Le premier domicile, c'est au-dedans. Et il faut qu'il soit fixé.
Et les livriaises?
Ah, tellement, tellement. Et je pourrais même vous surprendre qu'au-delà, en disant qu'au-delà des lectures scolaires qui étaient alors des grands classiques français, hein? Parce que on sait que l'école et les choix qui concernent l'école sont des choix hautement politique.
Absolument.
Et au-delà de ces pratiques-là, j'avais la lecture biblique que je comprenais pas, mais qui m'a appris la foi dans la solitude.
On va parler de votre livre, Max Lobé, juste après cette chanson de Blik Bassi, qui est un musicien né à Yaoundé, au Cameroun, et qui poursuit depuis des années une carrière internationale. C'est aussi un artiste qui a été choisi pour co-diriger la commission Mémoire, qui porte sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation, que vous appelez aussi parfois l'occupation, Max Lobé, et aussi après l'indépendance. C'est un rapport qui a été rendu public au début de l'année, qui est accessible en ligne.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Même l'enfant de mon arrière-petit-enfant, un jour, et ce jour n'est pas loin, se souviendra de tout ça, de tout ce sang qui dessine les contours de notre histoire, le malheur qui nous a rendus bâtards, et alors tu verras, je te promets, l'enfant de mon arrière-petit-enfant se lèvera pour présenter l'addition à qui de droit. C'est un extrait de votre nouveau roman, Max Lobé, et c'est un père qui parle, une des figures paternelles, car il y en a plusieurs dans votre texte, elles ont toutes bien des failles, bien des défaillances, voire de la violence, mais elles sont toutes animées d'un désir de transmission. De Dieu le Père dans la Bible, au père de Benjamin, votre personnage principal, en passant par les figures paternelles de président ou l'arrière-grand-père résistant, votre roman trace les voies pour reprendre dialogue avec eux, sonder, voire solder les mémoires, histoire d'être en mesure de faire autrement danser le présent. Et pourquoi pas faire s'envoler l'oiseau de feu. La danse des pères a paru aux éditions Zoé, et on va entrer directement avec presque l'incipit de ce roman.
La nuit est tombée depuis un moment sur Genève. La bise est douce. Prenant appui sur le rebord, je me tiens sur mes pointes, puis redescends sur mes talons. Pointe, talons, encore une fois, j'allonge les orteils et tire un rond de jambe. Je me penche légèrement vers l'avant et lève les yeux. Ce soir, le ciel est une large toile noire perlée, des étoiles qui donnent leur meilleur pour briller, pour égayer un tant soit peu la ville. Mais voilà, quelques-unes seulement y parviennent. En face, deux immeubles surélevés et accolés, du jaune craie ici et du rose saumon de l'autre côté. Au rez-de-chaussée, le ciné KitKat, une petite salle indépendante. J'ai l'impression d'en sortir à peine, comme si j'avais traversé l'écran pour me retrouver soudain dans un tout autre monde. J'essaie de me connecter au Wi-Fi de ma mémoire qui me projette loin lorsque soudain me parviennent les couleurs, les senteurs, les voix de mon enfance, là-bas, à Bidi, surtout celles de mon père, Koundé Digwet Ndje, le lion guerrier. Ses éclats de rire gras, sa gouaille de conteur, son timbre grinçant et cette nostalgie mûre qui pendouille à ses cils lorsqu'il évoque l'histoire du pays.
J'ai beaucoup aimé votre roman. L'histoire du narrateur Benjamin, expatrié en Suisse, m'a soulevé le cœur. Quand son père a confirmation de son homosexualité, il le rejette et le considère, je vous cite, comme un 9 mois pour rien. À un moment, je me suis demandé si toutes les scènes décrites, vous les avez puisées dans votre mémoire ou si vous teniez un journal dans lequel vous avez pioché. Merci.
Et on commence cette conversation, Max Lobé, avec une question de notre auditrice Marie-Josée qu'on vient d'entendre à l'instant et une lecture du début de votre roman qui ont toutes les deux à voir, cette lecture et cette question, avec la mémoire, la remémoration, la place du souvenir dans ce livre. Comment l'avez-vous composé, cette fiction de mémoire, ce branchage sur la prise Wi-Fi de la mémoire?
Presque comme un opéra. Là, on va dire, point deux grands actes. La première partie qui est, n'est-ce pas, la partie du souvenir tendre au père, des moments de joie qui raconte aussi sa formation, d'où il vient. Et puis la deuxième partie qui est, si je ne m'abuse, une partie d'émancipation, c'est le Max Lobé d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui baisse plus les yeux face à rien, même pas face à la mort. Donc non, je ne cesserai de le répéter. Et peut-être il faudrait qu'on me le montre à un moment dans le livre. Le père ne traite jamais son fils de 9 mois pour rien.
C'est la rue, c'est la société, c'est les tantes.
Et puis, il peut le penser, mais il ne le dit pas. Il dit « celui-là ». Et quelque part, « celui-là », dit comme ça, est peut-être plus douloureux encore, sortant de la bouche du père, que voilà, le 9 mois pour rien. Je pense que la relation ici au père... Je suis en train de parler avec vous, là, maintenant.
Merci pour ça.
de mon père, j'entends le géniteur, celui qui a donné la sauce. Je parle avec vous, et je le vois. Quand il était vivant, il est décédé il y a 15 ans. Je pense. Et ce n'est pas du tout des affabulations. Je vais peut-être le revoir ce soir. Il va me dire, mais c'est très bien passé, hein, tu commences à être en bon garçon. Et tout ça se passe là maintenant. C'est exactement cette temporalité de personnes que j'utilise dans le roman. Mm. Ça veut dire que partir du rapport au père, du début d'un deuil, ce qu'on pourrait appeler alors un deuil, qui ne commence que 15 ans après, pour en fait me demander cosa quella cosa che si chiama papà.
Qu'est-ce que c'est que cette chose qui s'appelle papa?
Ben ouais, mais c'est quoi cette chose-là? C'est quoi cette boule à facettes? Ça tourne, ça retourne. Vous savez, les pères, on parle aujourd'hui de congé paternité, on parle de équilibrage homme-femme. Mais l'homme en tant que père, en puissance, en tant que être capable de déposer son nectar quelque part, il a en lui une force, pour ne pas dire une violence. Une violence qui définit les rapports sociaux, il y a le chef de famille et tout ça. Et il n'attend que ça de ses fils. Parce que ce sont eux qui sont supposés continuer, hein, on parlait tout à l'heure de la continuité. Ils sont supposés continuer. Alors, quel est ce fils qui va continuer dans la lutte contre la chose blanche en faisant ce que la chose blanche fait, c'est-à-dire qui est homosexuel, qui par ailleurs, pour la coquetterie, se met du rouge à lèvres et du vernis à ongles. Est-ce que mon père, à l'époque, pouvait alors penser que parmi ses enfants, celui-là qui était d'une grande déception dans la fabrication serait celui qui assurément porterait le flambeau de l'oiseau de feu. Ce ne sont pas des choses qui se choisissent. Ça tombe sur nous, c'est-à-dire soit on est frappé, soit on l'est moins, soit on ne l'est pas du tout.
Par le feu,
on parlait de flamme tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous entendez par le feu, Max Lobé? C'est-à-dire, il est tellement question de la nécessité, de la puissance de transmission, notamment de l'histoire du Cameroun, mais aussi de l'histoire de la colonisation ou de l'occupation, qui est un mot que vous utilisez aussi, et de la lutte pour la liberté, de la résistance. Ce serait ça, être frappé par le feu, c'est-à-dire être frappé par la possibilité de continuer de raconter cette histoire?
Pas tout à fait. Frappé par le feu, c'est comme un appel. Voilà, il y a des gens qui deviennent missionnaires, il y en a qui deviennent franciscains. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup parler des franciscains, peut-être avec le vœu de chasteté aussi. mais vraiment, il y a ce côté ceinture qui tient le corps et la colonne debout. Et quand je parle de feu, c'est l'appel. Voilà, il y a des gens. Pourquoi on écrit? Pourquoi on chante? Pourquoi vous êtes journaliste? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, même là, ces derniers jours, vous vous êtes dit, laissons de côté l'aspect capitaliste monétaire d'échange pécunier et de l'argent, même si on sait qu'on redonne l'argent qui nous a été donné par salaire dans la consommation. Donc là, être frappé, c'est être dans le processus d'œuvrer, pas de travailler. Je reprends les notions d'Anna Arendt. L'art, c'est quelque chose de bien plus grand qui nous a précédés et qui va nous continuer. C'est des outils de compréhension du monde que nous nous laissons les uns aux autres, à la naissance, jusqu'à la mort.
Il y avait quelque chose dans la question de Marie-Josée qui vous intéresse. interrogeait sur la recomposition de la mémoire, Max Lobé. Vous demandez, est-ce que vous avez tenu un journal dans votre enfance et adolescence? Est-ce que les vignettes, est-ce que les morceaux de mémoire qui existent dans votre roman proviennent de prises de notes de l'époque? Et puis, il y avait aussi, dans le texte lu par Mathilde Wagman, la vision d'un cinéma et l'idée de se brancher sur la mémoire. Or, il y a un processus de montage dans votre livre, c'est-à-dire que ces morceaux de mémoire-là viennent trouver des échos, comme vous les juxtaposez, de chapitre en chapitre, vous fabriquez un nouveau film, vous fabriquez quelque chose par la composition de votre texte. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans la fabrique de ce livre-là?
Plus que dans la fabrique, je vous invite dans la cuisine. Je vous invite dans la cuisine, quels sont les condiments qu'il faut et tout. Il va falloir, j'ai toujours beaucoup de problèmes avec ça. Avant de revenir sur cette partie du verbe falloir, revenons sur la question de l'auditrice. On ne crie pas de rien. Je ne suis pas un atome qui se balade dans l'air, non. J'écris de mon expérience en tant qu'individu. Alors, pour ça, il y a tellement de choses à dire. On a parlé de PD à 3 ans, la migration, toujours dans les frontières de la francophonie, et je me retrouve à... Vous voyez, donc, à un moment donné, il faut de la distance avec tout ça. Moi, j'ai toujours dit cohérence, vraisemblance, distance et nuance. Parce que s'il n'y a pas ça, on est une brute de décoffrage et on ferait mieux d'aller peut-être jouer au MMA. Je procède alors pour écrire. Je prends une bonne partie pour la contemplation. Et je suis très sérieux. Je peux m'interner chez moi. Je peux faire 2 semaines sans sortir de chez moi. D'ailleurs, ce livre, les premières pages vous donnent directement, quand vous êtes genevois, la localisation de là où j'habite. Et le livre donne le plan de mon appartement.
Presque avec d'ailleurs une sensation d'unité de temps et d'espace. C'est-à-dire que s'il y a une pluralité des vignettes de mémoire qui sont comme convoquées par votre narrateur, lui, il a son cinéma, il a son home cinéma d'une certaine manière.
Mais c'est pour ça que Bersin ne parle d'interdépendance et des durées. Parce que il y a, pendant qu'il fabrique cet opéra avec ce décor de carton qui est l'appartement, il rentre dans une durée postérieure. On parlait de parler avec les papillons, mais aussi de se faire refouler, de ceci, de cela. Il y a toute une histoire de
migration. Tout est au présent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Tout ça est au présent. Tout ça, quels sont les hommes et les femmes qui m'ont fabriqué? C'est ça ma demande, ma question. Quelles sont ces personnes-là? Et pour cela, on a besoin du vécu, mais on a beaucoup besoin de voir les choses, de voir les choses, les écouter. Je disais tout à l'heure...
En soi.
Je vois mon père en train, je me vois en train de prendre une bière avec mon défunt père ce soir. Et donc, c'est pas seulement des calculs de, oui, il m'arrive de faire des diagrammes, pour comprendre, pour pas se perdre.
Dans la composition du livre,
parce que, vous savez, c'est comme de l'art brut, ce que j'ai dans la tête au début, de l'écriture d'un roman, il faudra peaufiner, il faudra, zinguer, il faudra raffiner, c'est comme une sculpture, parce que, l'art, c'est pas non plus on met tout et n'importe quoi. Non. Donc, j'ai choisi d'abord des éléments qui sont importants, comme par exemple la rupture avec le père. Et je les mets en perspective, la rupture avec le père, la relation au père, je la mets en perspective avec la relation à tous les autres pères, finalement, que j'ai eu, tous les autres hommes. Hein, même quand... pères, ils sont un peu moins en tant qu'homosexuels. J'ai connu beaucoup d'hommes blancs. On dit souvent cis gay, ça veut dire un homosexuel qui a toutes les caractéristiques viriles d'un napolitain. Et donc, moi je suis à l'opposé, je ne revendique rien, c'est comme ça. C'est bon, comme ça, Nassouadé. Et aujourd'hui, à 40 ans, je me dis, mais en fait...
Et vous voulez dire quoi? Que ces hommes-là, amants, entrent aussi dans le kaléidoscopique de la question « Qu'est-ce que c'est que la figure paternelle avec toute la largesse
de, voilà, qui m'a formée ?» Tellement, tellement. Vous voulez qu'on parle du sugar daddy? Pas moi, d'ailleurs...
Non, ce sera une autre discussion, mais en effet, très intéressante, Max Lobé.
Parce que, voyez-vous, on parle souvent de mentor, de ceci, de cela. Le mentor, le père, est là pour attiser la flamme. Pour attiser la flamme, pour garder l'âme en pesanteur au-dessus de la mêlée et au-dessus de la tempête. Mais aujourd'hui, quelles sont ces personnes-là qui finalement tirent leur petit aiglon vers la terre, vers le charnel, vers tout ce qui n'est pas œuvre d'art?
On va écouter un nouvel extrait de votre livre « La danse des pères », Max Lobé, toujours dans la voix de Mathilde Wagman.
Quand il me prend comme ça en équilibre sur ses épaules, même s'il fait comment, je n'ai jamais peur. Je sais que je suis avec mon pas et que mon pas à moi, pardon, hein, ce n'est pas n'importe qui. C'est le petit-fils de Wolfgang Goethe-Nje, combattant de la première heure pour la liberté et le chassement de la chose blanche. Papa a un parcours incroyable. Né d'un père inconnu et d'une mère qui s'est fait la malle à ses premiers pas, à ses tout premiers babillages, il est vite repéré par Niobe, le leader de la résistance en personne, et nommé ministre du guettement et du signalement de la chose blanche. Tout ça en 1900 avant-hier, dans un gouvernement en exil dans le maquis de Longassé. Alors, comment ressentir la moindre crainte lorsqu'il se met à danser du funky et du makossa dans le même tempo, dans leur balancement, les épaules de pas imprègnent les pas dans mes petits pieds, qui tiennent, comme des boucles, sur ses oreilles.
L'UPC a demandé à intervenir sur trois questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Puisque votre livre, Max Lobé, procède d'un tressement des voix, alors on le poursuit en écoutant à la fois un extrait de votre texte « La danse des pères » et la seule archive à ma connaissance de Niobe en 1952 qui s'exprime devant l'ONU pour réclamer, entre autres choses, la réunification du Cameroun et sa future indépendance. On est à 8 ans de la déclaration de l'indépendance du Cameroun. Il y a quelque chose dans le livre qui, par la voix du père, par l'évocation de toutes ces facettes-là, procède aussi de la transmission de l'histoire du Cameroun. Et quand vous dites tout devient au présent, par exemple, la voix d'Niobe, l'histoire de l'UPC, l'histoire de la résistance, l'histoire de l'arrière-grand-père, peuple la pièce, la petite cuisine où Benjamin se trouve et appelle les souvenirs.
Allons plus loin pour dire des demandes formulées par Ruben Niobe en 52, alors à l'ONU, institution créée par les vainqueurs de la dernière guerre. D'ailleurs, un accès très difficile hein, au pupitre de l'ONU pour ces revendications-là. Il faut dire que rien de cela n'a été à réaliser jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. D'indépendance, moi, j'en cherche toujours. Et d'ailleurs, je voudrais demander à nos amis français, vous savez, il y a eu des empires. Il y a eu des empires jusqu'à quoi, 19e, 20e siècle. Et l'empire français comprenait, ou même comprend, encore beaucoup de pays africains. Il y en a qui essayent de s'en émanciper récemment, qui sont même sortis de la francophonie. Quand je dis tout ça est présent, ça veut dire que c'est une lutte. Vous parliez tout à l'heure de... la commission France-Cameroun avec les deux émissaires du président Macron. Non mais franchement, soyons sérieux. Il y a des gens sérieux. Il y a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, travaillent sur ces questions depuis longtemps. Il y en a qui l'ont fait et qui ont tellement retourné leur veste qu'on ne voit plus que leur cul. Il y en a qui gardent le tempo. Parce que je disais tout à l'heure, la littérature, l'écriture n'est pas un jeu de lumière, ce n'est pas la Star Academy. Je peux prendre le cas d'Achille Bembe qui a écrit de très belles pages sur l'humiliation coloniale. Et moi, je travaille beaucoup sur ces trois termes, la honte, l'humiliation et l'honneur. Donc, cette commission mandatée par le président Macron, pour Karine Ramondi et Blik Bassi, ça fait sourire. Voilà, ça fait sourire. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Puis on ne voit pas la rupture.
En tout cas, c'est votre point de vue et c'est aussi le point de vue d'un certain milieu intellectuel à Yaoundé et au Cameroun qui reçoit avec beaucoup de méfiance la remise de ce rapport-là, en effet, Max Lobé. Mais ma question, c'est pas du tout pour décentrer de ce rapport-là, puisque c'est moi-même qui l'ai cité, était de savoir, est-ce qu'il y a une ambition dans votre roman de produire justement autrement de la mémoire?
Depuis le premier roman, et produire autrement de la mémoire, pas seulement avec les résistants contre l'occupant français. Avant, il y a eu les Allemands, il y a eu l'Espagne, le Portugal. C'est une transmission sur... une contre-transmission, comme on pourrait parler de contre-propagande, non ? Une contre-transmission, parce que si demain ou après-demain, un jeune français ou whatever francophone écoute en archive qu'il y a eu des belles heures de la colonisation, moi je vais lui demander de chercher dans les archives les belles heures de l'occupation française, française par l'Allemagne. Oui, peut-être il devrait y en avoir, il y en avait sans doute à Paris, les gens continuaient de faire la danse, s'amuser, s'encanailler, hein. Paris, c'était le fief de la mécréance, c'est tout ce qu'on pouvait pas faire en Allemagne, on le faisait à Paris, le pouvoir de Vichy soutenait les... Je pense que quand on prend cette perspective-là, on comprend mieux de quoi est-ce qu'il s'agit.
D'utiliser ce mot d'occupation pour essayer de faire sentir quelque chose qui parfois n'est pas assez senti par certains, à savoir qu'il y a dans la colonisation cet acte d'occupation. D'ailleurs, vous dites souvent, je préfère parler de résistance pour aussi utiliser un mot
que de
commun.
Guerre de libération. Je parle de résistance. Oumiobé, il a été traité comme beaucoup aujourd'hui, et beaucoup le seront encore demain. Il a été traité de terroriste, de communiste, de tout ce... Vous voyez,
et assassiné en 1958.
Hevel. C'est rien tout ça là. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Et il suffit simplement d'être armé et de comprendre qu'est-ce qui a dysfonctionné à quelle époque et réussir peut-être à trouver la bonne vis. le bon boulon pour que ça se reproduise.
Mais justement, puisque vous dites qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ni avec ce rapport, ni finalement après l'indépendance, ou que vous-même refusez d'appeler comme ça Max Lobé pour le Cameroun, alors comment on produit du nouveau ? Il me semble qu'une chose que recherche la danse des pères, c'est de produire du mouvement, et notamment à partir de la langue. Donc j'ai parlé du montage, du souvenir, j'ai parlé d'une retraversée de la mémoire, et vous avez évoqué toute la structure kaléidoscopique de votre texte, de la mémoire, mais aussi de la subjectivité. Maintenant, parlons de ce que vous produisez de nouveau dans la langue. Est-ce qu'il y a, dans cette recherche de production du nouveau, tout ce que vous appelez de vos voeux politiquement, avec tout ce qu'on vient de se dire depuis 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que c'est en rapport. J'ai l'impression que là où vous ne voyez pas les choses bouger, là où vous ne voyez que de l'immobilisme, y compris sur les figures politiques en place au Cameroun depuis des décennies, vous voulez produire du mouvement, de la danse, par la langue.
Question tripartite, multipartite, je vais essayer...
Trop longue.
Je vais essayer d'y répondre par un arabesque
allez,
ou un saut de chat. Saut de chat. Oui, il faut du nouveau. Comment, qui, dans quelles circonstances, peut m'expliquer qu'un président de la République, pas un roi, soit au pouvoir pendant plus de 40 ans, qu'il ait été premier ministre avant, qu'il ait été directeur de cabinet, ça veut dire qu'il a 60 ans de pouvoir dans un pays où 35%, beaucoup plus de 35% de la population, a même pas 20 ans. Je peux vous faire une petite confidence. Le ministre de l'enseignement supérieur, quand j'étais au Cameroun, à 16 ans, j'avais mon bac et j'entrais à l'université de Douala, c'est le même ministre de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, ça fait 22 ans que j'ai quitté le Cameroun. Vous voyez, c'est ce qu'Anna Arendt appelle une tyrannie. Il faut faire attention au terme. C'est une tyrannie. Que pas une dictature, hein. Une dictature à la limite ce serait la France, ou le totalitarisme qui est très rare, peut-être la Corée du Nord. Mais c'est une tyrannie où il faut du nouveau. Il faut du nouveau dans la langue, il faut du nouveau dans, on parle de transmission langue, en fait c'est l'éducation. C'est l'éducation, qu'est-ce qui nous est raconté ? Est-ce qu'il est raconté aux petits Français à l'école de la République que papa de Gaulle était très gentil et que dans sa grande mansuétude, il a donné l'indépendance à l'Algérie, au Cameroun, à la Guinée. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et apporter cette nouvelle voix, avec un nouveau langage qui est, je dis souvent, j'écris d'abord pour les Camerounais. Un roman, c'est comme une lettre, non ? J'ai quelqu'un en tête que je vois. Je vois mes mères, je vois tous ces jeunes. Aujourd'hui, je dirige un programme, nous dirigeons un programme avec Sylvana Moïse-Cho qui s'appelle Genève Africa, qui met en lien des artistes suisses et africains francophones par le biais de l'épistolaire. Et cette année, nous travaillons avec Bamako, le Mali, qui est sorti de la francophonie et qui s'est éloigné de la France. Moi, ça m'intéresse comme ça. Ce sont des nouvelles voix. Elles ne sont pas parfaites, certainement pas. Mais je termine par là. Dites-moi, Marie.
Je vais essayer. Je ne sais pas, je crains votre question. Dites-moi. La mienne était tellement longue.
Regardez-moi. Avec tout ça, tout ce bagage. Est-ce que vous pensez vraiment que je prends plaisir à passer 8 mois sur 12 dans le froid, alors que je sais que je viens de quelque part où je crache un mangué pousse, un cocotier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il est temps...
Précisément, je ne vois pas. Bah oui, précisément, je ne vois
je
pas.
Je vous invite... soit dans quelques années, quand le président Biya sera parti, soit à rentrer dans l'ensemble de mon œuvre pour faire le voyage alors au Cameroun, notamment grâce à Loin de Douala. Donc, pour conclure, je veux dire, je n'ai connu que le président Biya. qui est un tyran sans pitié et qui est soutenu clairement par les institutions de Bretton Woods, par l'Union européenne, en tête la France. Il est temps de le dire, mais en plus, c'est tellement évident, tous ces trucs-là, les coups d'État qu'on voit, qui sont... Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'on change profondément la mentalité des uns et des autres.
Et c'est ça passe par de la poétique, Max Lobé ? Parce que ma question portait aussi sur s'il y a du nouveau, s'il y a de la danse, s'il y a de la recherche de mouvement dans votre texte, c'est dans la phrase. Parce que là, vous avez un propos qui est ouvertement politique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de politique dans la danse des pères, mais il n'est pas du tout avancé de cette manière-là. Mmh. Votre danse politique dans la danse des pères prend une autre tournure que ce que vous venez de dire depuis 20 minutes. C'est autre chose, c'est une danse littéraire d'une certaine manière.
Mais vous savez pourquoi ?
Non ?
Non. Parce qu'une œuvre d'art n'est pas un PV de réunion de parti politique. une œuvre d'art n'est pas un rapport d'Amnesty International. Non, quand je parlais de distance, retenir le bien, cohérence, vraisemblance, distance, nuance, il faut prendre de la distance. Alors la danse, si ce n'est pas les danses de salon, on doit prendre la distance avec son propre corps. J'étais récemment au Brésil et j'ai fait des séminaires de danse afro-brésilienne. On ressent ça, le corps qui se lâche. Comment est-ce que des jeunes africains forts, souvent bardés de diplômes, prennent toute cette force pour attaquer le désert, la Méditerranée, et puis l'administration barbare qu'ils trouvent en Europe, au lieu d'aller simplement mettre un coup de pied dans les fesses d'un vieillot. C'est ça le corps aussi, le breakdance, le hip-hop, dire cette colère. C'est pour ça que Arthur Mitchell, lorsqu'il retourne à Harlem avec la danse classique, beaucoup se disent « mais c'est qui vient nous faire ce mouvement lent alors que nous avons besoin de rap, de force ?» Donc oui, il faut du nouveau. Dans la parole, dans la gestuelle, dans la façon de penser et surtout de nouvelles stratégies de combat.
La fin de votre roman, j'éteins, avant de quitter l'appartement, dehors, le jour se lève, tout nouveau sur mon visage.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme tous les jeudis dans le Book Club, on prend des nouvelles du livre grâce à la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, on se rend en Allemagne avec vous, Sébastien Baer. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Vous êtes à Berlin, la capitale allemande, qui n'en finit plus d'inspirer les auteurs de romans noirs hier comme aujourd'hui.
Ah oui Marie, pas un mois, ou presque, sans qu'un nouveau récit paraisse en mettant Berlin à l'honneur. Rares sont les villes dont les rues, les lieux, servent autant de toile de fond à des intrigues policières. Les premiers récits nous plongent dans le Berlin des années 20. Parmi les plus connus, l'incontournable trilogie berlinoise de l'écrivain écossais Philip Kerr avec son détective Bernie Gunther qui enquête sous le régime nazi. Ou encore la série à succès de Volker Kutscher qui nous emmène en 10 romans sur les traces du commissaire Rat dans plusieurs sites emblématiques, les mythiques studios de cinéma de Babelsberg, la Potsdamer Platz, l'hôpital psychiatrique du quartier de Wittenau ou encore au cœur des Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Les trois premiers tomes de cette série sont traduits en français et l'histoire a donné naissance également à la série Babylone Berlin diffusée sur Netflix. Ces récits sont parfaitement documentés. Ils s'inspirent de la très riche histoire de Berlin et racontent la ville jusqu'à la chute du mur en 1989 et la réunification entre l'Est et l'Ouest. Si vous décidez de vous plonger dans ces romans policiers historique. Ne manquez pas non plus l'œuvre de l'Allemand Harald Gilbers, présenté comme l'héritier de Philip Kerr. Les ouvrages sont publiés en France par Kalman Levy et disponibles en format poche.
Et donc ça, c'est pour les polars historiques, mais il en existe aussi de très nombreux qui se déroulent dans le Berlin d'aujourd'hui. Il faut dire que les lieux susceptibles de servir de décor aux polars ne manquent pas, Sébastien.
Oui, c'est vrai. On les trouve, Marie, à foison, dans chaque recoin ou presque de la capitale. Deux exemples parmi un tas d'autres. L'ancien bunker de la Reichsbahn qui servait d'abri anti anti-aérien pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être reconverti en boîte de nuit, puis enfin en galerie d'art, ou encore la Bierpinsel, c'est une très surprenante tour de 47 mètres de hauteur au cœur de Berlin, qui fait penser un peu à un gigantesque champignon et qui a été construite dans les années 70. C'est ce Berlin, un peu sauvage et surtout très mystérieux, qu'affectionne particulièrement Johannes Groschupf. Cet auteur de romans noirs vit dans le quartier berlinois de Kreuzberg et il vient de publier son 13e ouvrage, Skin City.
Dans les années 90, il y avait beaucoup de lieux abandonnés à Berlin, des usines, des écoles vides ou des piscines municipales qui étaient laissées à l'état de friche. Berlin est une grande ville, mais elle a aussi un côté petit village et des endroits parfois délaissés, comme à Détroit par exemple. Elle a de nombreuses facettes. Toutes les autres villes allemandes sont beaucoup, beaucoup plus propres. Tous ces graffitis dans les rues, vous ne verrez pas ça à Munich ou à Cologne. En une journée, je croise une dizaine de personnes issus de cultures, de milieux et de contextes sociaux différents. Cela nourrit mon écriture.
Il arrive parfois que la réalité dépasse la fiction, que le décor de roman noir devienne scène de crime, comme le canal de Neukölln où la police est allée repêcher il y a 2 ans une partie des bijoux et diamants dérobés dans le prestigieux musée de la Voûte Verte à Dresde, un butin de plus de 100 millions d'euros pour ce cambriolage surnommé le casse du siècle, avec un scénario, Marie, qu'aucun auteur de polar n'avait imaginé.
Merci infiniment Sébastien Baer. Lecture sans frontières à réécouter sur franceculture.fr. On a parlé de la musicalité omniprésente dans votre texte, Max Lobé, mais ici, le Book Club toujours se termine par de la recherche de musique, d'évocation musicale, claire et nette, dans les pages des livres que nous lisons. Ici, on est considérablement servi dans la danse des pères. On se quitte donc avec un extrait de votre roman.
This is David Edwards on the stage, filling in for Malcolm Davis. We're presently being entertained by Odetta, the world-renowned Negro folk singer. She's been singing Oh Freedom, one of the traditional songs of the movement. Let's go to Odetta now on the stage.
Je me tiens debout dans mon salon, me détends les épaules et lève les bras en rond au-dessus de ma tête. C'est la même lumière rose qui coule. Devant moi, sur ce mur-ci, le portrait d'Arthur Mitchell que j'ai fait accrocher au-dessus de mes plantes. En blanc sur noir, la photo montre un homme qui ouvre grand ses bras comme un oiseau de feu déploierait ses ailes. Oh, freedom over me. Quand j'ai su que cette chanson faisait partie des chants de résistance des Noirs américains dans les années 1960, alors j'ai commencé à battre mes ailes, exactement à la manière de ce petit oiseau, à la manière de ce truc brûlant qui m'était apparu le jour de mon baptême.
Oh, freedom, oh, freedom over me. Before I'd be a slave, I'd be buried in my grave. Go home to my Lord and be. No more moaning, no more moaning, no more moaning over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave. Go home to my Lord and be free.
Merci Max Lobé.
Merci pour cette chanson qui m'accompagne. Oh freedom of me, oh freedom of you people. Soyons à la recherche de cette liberté dont nous avons tellement besoin.
La danse des pères, c'est le titre de votre roman paru aux éditions Zoé. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vivien de Meyer. À la prise de son, Grégory Wallon. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Mathilde Wagman, Léa Weissgruss, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Louise Hoth et Alexandra Laibegovic, avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club.
Vous écoutez France Culture.
Cette semaine, la série musicale vous emmène à la découverte du son du Sénégal.
Zoé Svez.
Après notre série consacrée au Cap-Vert et notre portrait du secret le mieux gardé de la pop italienne, Franco Battiato, nous partons ce samedi à la rencontre du genre roi au Sénégal, le mbalax popularisé par l'immense Youssou N'Dour qui fait son grand retour ce printemps.
La série musicale, chaque samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Chicago 1951. Carl Baumann est un ancien para et un détective privé raté, dont le quotidien oscille entre des affaires d'épouse cocufiée et sa flasque de whisky. Mais le passé ressurgit.
Quand une radio militaire muette depuis la fin de la guerre se met à émettre juste après votre dernière cuite, vous êtes barge.
Alpha.
Et vous répondez à l'appel.
L'affaire Baumann, écrit par Zéphiriel et Nicolas Henry, réalisation Laurence Courtois, à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture, tout de suite, LSD, la série documentaire. Cette semaine, La naissance du racisme, par Stéphane Bonnefoy, réalisation Diffie Mariani.
Vous voyez ici